Alors donc c'est le dernier chapitre, enfin c'est le dernier cours, hein, même pour tous ceux qui font le circuit complet du CIF. Et c'est un cours qui est à la fois la suite de Laudato Si et une sorte de récapitulatif de ce que vous avez déjà vu une fois ou l'autre, notamment avec Isaïa, puisque comme vous voyez, hein, il est marqué la liturgie cosmique. Alors, attendez, il faut que je fasse ça. Hop, voilà, c'est mieux pour vous, hein. L'image est plus grande, voilà. Alors, je vais vous le présenter en deux parties, que voilà. Je vais faire une petite introduction rapidement, puis qu'est-ce que la tradition du livre de la nature et cosmos et liturgie. Voilà, donc deux gros chapitres. Dans l'introduction, trois points. Premièrement, le fait de s'intéresser au monde, à la nature, et on est dans la suite de Laudato Si, est évidemment quelque chose qui remonte à la nuit des temps. C'est-à-dire probablement tous les hommes se sont toujours interrogés sur le rapport à l'environnement. Et on y reviendra tout à l'heure, mais même les hommes de l'époque des monolithiques, vous voyez, des monolithes que vous voyez ici, font ces alignements parce qu'ils cherchent à se concilier le monde, parce qu'entre eux et le monde, il y a un intéressement. Et comme je l'écris ici, alors c'est un jeu de mots de Rémi Brague, hein, inter, essai, ça veut dire être, essai, hein, le verbe être, et ça veut dire que l'homme n'est, et c'est toujours pensé comme ça, n'est que lié avec son environnement, ça va sans dire, hein. Mais en fait, c'est intéressant de constater que ça a toujours été pensé, hein. L'art pariétal, l'art des pierres levées en 5000 avant Jésus-Christ, etc. La deuxième chose dans le rapport à la nature, c'est que on va, là aussi, je pense, ça remonte à belle lurette, si j'ose dire, on va chercher dans la nature à apprendre d'elle. On voit que l'eau coule, qu'elle descend toujours vers l'endroit le plus bas, on voit que la chaleur fait monter les choses, et on apprend beaucoup. Et donc, il y a une espèce d'utilité à écouter, à observer, à lire la nature. Donc, premièrement, on y est intéressé, et deuxièmement, on s'y intéresse pour des raisons d'apprentissage. On apprend beaucoup de la nature. On apprend même ce que nous sommes. On devient ce que nous sommes grâce au rapport à la nature. La troisième chose dans cette introduction, c'est qu'il y a entre les choses et les humains une mutuelle estime. Alors, cette mutuelle estime, nous l'avons quelque peu perdue, quelque peu sabotée pendant, disons, la période industrielle postmoderne, mais elle a été toujours pratiquement, là encore, dans toutes les cultures. C'est-à-dire, nous portons soin des choses parce que nous savons que les choses nous portent soin. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est qui traverse, disons, toutes les traditions, et en particulier la tradition chrétienne à laquelle je vais maintenant m'attacher, hein, parce que il faudrait parler de la manière dont dans la religion de Confucius on s'intéresse au rapport à la nature. Il faudrait voir, on en a déjà touché un mot, comment l'animisme pense le rapport à la nature, etc., etc. Donc là, je vais quand même aujourd'hui limiter considérablement le champ et m'intéresser à la perspective chrétienne. Et là, il y a deux grands blocs. Il y a d'abord la tradition de ce qu'on appelle le livre de la nature, vous allez comprendre très rapidement, et puis un deuxième grand bloc qu'on pourrait qualifier comme la nature comme liturge, la nature comme désirant louer le Créateur. Donc voilà, ce sera le deuxième chapitre. Alors la tradition du livre de la nature, qu'est-ce que c'est? Eh bien, d'abord c'est intéressant de s'y pencher, sur cette question, parce que beaucoup s'imaginent, quelques-uns, vous savez, qui sont un petit peu rétractaires en ce moment, à la manière dont l'Église, avec le pape François, enfin, etc., et pensent que cette encyclique, Laudato si, est un effet de mode, que le pape aurait cédé, à la différence de son prédécesseur, qui luttait contre le monde, le pape aurait cédé, disons, aux opinions du monde. Mais pas du tout. En fait, la question de l'écologie, au sens non politisé du terme, est de toujours dans la tradition de l'Église, et notamment avec ce fil qu'est le livre de la nature. C'est quoi le livre de la nature? Eh bien, c'est tout simplement qu'on peut y découvrir beaucoup en comprenant son fonctionnement. Ben ça, je vous l'ai donné dans mon introduction. Mais mieux encore, on peut, en comprenant le fonctionnement du monde et en vivant de ce fonctionnement, entrer dans l'intelligence même du Créateur. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est intéressant cette fois-ci d'étudier, de se connecter à la nature, de lire la nature, parce qu'en fait, on va y découvrir ce que le Créateur y a déposé, c'est-à-dire qu'on va finir par découvrir le Logos éternel, celui qui fit le monde. Et donc, dans la tradition chrétienne, alors je dis chrétienne, mais il faut dire judéo-chrétienne, car c'est déjà en germe dans la tradition juive. Mais ça a été, disons, très clairement explicité dans la tradition chrétienne. Donc, vous voyez, on étudie la nature, on a carrément monté une marche par rapport à l'introduction que je vous donnais, disons, qui est un comportement anthropologique universel. Tous les philosophes grecs, taoïstes, voilà, ont compris tout ça. Tandis que là, avec le monde chrétien, nous allons, en étudiant le monde, en se connectant avec lui, en étant aimable avec lui, nous allons pouvoir être littéralement compagnons du Logos éternel. C'est donc la tradition dite du livre de la nature, depuis Origène, second siècle, jusqu'à la Renaissance. Nous allons visiter 4 grands penseurs du christianisme. Si vous avez regardé la feuille qu'on vous a envoyée, j'ai modifié, j'ai raccourci, parce que j'avais rajouté un 5e, Isaac de l'Étoile. Mais je l'ai supprimé, et heureusement, là, parce que tout à l'heure, à 14h, j'ai déjà eu du mal à finir. Et donc, heureusement, j'ai allégé cette version qui est plus light. Mais avec 4 auteurs, on va déjà largement pénétrer ce sujet. Je regroupe Saint Bernard et Saint François, pourtant très différents, vous allez voir, quant à leur rapport à la nature, parce qu'ils ont un point commun, la frugalité. Puis je regroupe Hildegard von Bingen et Bonaventure autour de la question des harmonies générales qu'on a déjà vues quand je vous présentais, vous savez, les 6 manières de voir le monde la fois dernière. Alors allons-y avec Saint Bernard. Saint Bernard, vous avez ses dates, il est mort à 63 ans, c'est un homme du XIIe siècle, personnage exceptionnel, caractère très fort, il est le promoteur de l'ordre cistercien, bien entendu. Alors je dis promoteur, c'est pas lui qui l'a créé, parce que les cisterciens, ça a été fondé par Robert de Molem. Et Bernard est arrivé auprès de Robert de Molem, et en fait c'est lui qui est devenu le moteur, le booster de l'ordre cistercien, qui était une réforme des bénédictins. Voilà, ils sont toujours un peu querellés avec le grand ordre bénédictin qui était Cluny. Et donc Bernard fonde de son vivant quelques dizaines de monastères, 23 je crois. C'est quoi l'essence de ce monachisme? Eh bien, c'est un travail de paysan, des temps de prière qui cadencent la journée, ce sont des bâtisseurs, ils construisent énormément, ils défrichent, et chose intéressante, il promeut, Saint Bernard, l'autonomie des fondations. C'est-à-dire quand, par exemple, Citeaux va fonder Clairvaux, et Citeaux va fonder également Fontenay. Eh bien, très rapidement, Fontenay va être autonome, c'est-à-dire ne relève pas de l'autorité de Citeaux, de l'abbaye mère. L'autre point hyper important, c'est évidemment l'ascèse. Bernard refuse le confort, bon, il faut mettre des guillemets, le confort de Cluny. Il refuse le côté grandiose de l'abbaye de Cluny. Il veut restaurer une espèce de frugalité, en effet. Hein. Et son rapport à la nature, il est très intéressant parce que le projet cistercien, c'est de remettre en ordre le monde des faits. Le monde, c'est-à-dire la nature, le cosmos, blessé. Et donc, il veut, en quelque sorte, le restaurer. Voilà son idée. Voilà le rapport qu'il a avec la nature. Le cosmos, la nature, est déréglée, pense-t-il, par le péché de l'homme. Bah, qu'est-ce qu'il n'aurait pas dit aujourd'hui, hein ? Pour lui, le dérèglement, c'est quoi ? C'est tout ce qui est inhabitable. C'est curieux, hein, mais c'est vraiment le critère de Saint Bernard, c'est l'habitabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'un lieu est habitable ou pas ? Et ce n'est pas normal, ce n'est pas la vocation de la nature que ce soit inhabitable. Alors voilà, c'est vraiment l'idée qu'il a, c'est très étrange. Hein. Et par exemple, il pense que la montagne, si admirée aujourd'hui, vous savez, on trouve que c'est vraiment peut-être le paysage les plus beaux que nous avons en France, etc. Mais la montagne n'est pas habitable. Et donc, pour lui, ça n'est pas beau. Et c'est très curieux. Hein. C'est très curieux, ce critère d'habitabilité. Et pourquoi ? Eh bien, parce que, pour lui, un cosmos réglé, c'est un cosmos qui est aimable à l'égard de l'homme. C'est un cosmos qui peut accueillir l'homme, où l'homme peut vivre. Et donc, alors, le marais, par excellence, c'est l'image de la dégradation, pense-t-il. Aujourd'hui, vous voyez, on protège les zones humides. À l'époque, c'est surtout les zones humides, c'est surtout facteur de maladie, de paludisme, d'infection, etc. Et donc, il veut restaurer l'hospitalité de la nature. Et l'homme va en être le jardinier. Il va aller dans les marais, dans les forêts, parce que les forêts sont également considérées comme inhospitalières. Bref, il va aller dans ce qu'on appelle le chaos. Et il va dans le chaos pour restaurer le cosmos, c'est-à-dire l'œuvre du Créateur. Du coup, il faut bien avouer qu'il a un regard assez ambigu hein, sur cette nature. Elle est pour lui le lieu de l'épreuve. La nature, puisqu'il va toujours dans les forêts profondes, il va toujours dans des marais, la nature, on va la combattre pour la réordonner, bien sûr. Hein. Et dans son idée, s'il n'y a plus de martyrs, il y a encore par là, par ce travail, qui est un vrai travail pénible, les moines endurent beaucoup, eh bien, il a une manière possible de vivre, non pas le martyr, bien sûr, mais l'offrande de soi, corps, âme et intelligence. D'un marais, il fait une pisciculture, ou bien ils vont drainer un terrain, ils vont canaliser, créer des moulins. L'abbaye de Fontenay aura ainsi des forges, c'est bien connu, hein, c'est-à-dire alors que c'était un marais. Bref, les cisterciens restaurent le monde, restaurent le créé. L'ordre de Cîteaux va mettre au point une économie très active, très opérationnelle et créatrice, puisque, tout à l'heure je vous ai parlé, c'est l'autonomie laissée très vite aux différentes fondations, les abbayes-filles, si vous voulez. Et ça va permettre en fait un développement local très important. Et ils vont être les cisterciens, les bénédictins aussi à leur manière, mais les cisterciens vont être des promoteurs, disons, de civilisation et des promoteurs d'une nature ordonnée, d'une nature pacifiée, d'une nature utile partout en Europe. Ça va être extraordinaire. C'est eux qui vont faire que la France devient agricole et viticole. Cluny est beaucoup plus hiérarchique. Les abbayes-filles sont toujours liées au père abbé de Cluny. Ce qui fait que Cluny était à la tête, le père abbé de Cluny était à la tête de 8000 moines. Vous voyez, et chacun de ces moines était des ingénieurs de niveau polytechnique. Et donc, évidemment, le fait d'être à la tête d'une armée pareille ça engendre un tout autre type d'économie et de gouvernance. Et bien, c'est ça que Saint-Bernard ne veut pas. Quant au rapport à la nature, il faut bien dire, les cisterciens entreprennent donc une lutte pour la redresser, et la nature va être donc un terrain redouté, un terrain de combat, alors que chez les bénédictins de Cluny, la nature est généralement un lieu économique, un lieu pacifié. Chez Bernard, il s'agit de vaincre, il s'agit de soumettre, il s'agit de réordonner, de restaurer. C'est une sorte de retrouvaille avec le monde tel qu'il a été créé, tel qu'il a été voulu par le Créateur. Alors pourquoi j'ai placé ces deux personnages, Bernard et François, sous le titre « Heureuse frugalité » ? Parce que là, avec ce que je viens de vous décrire, il n'y a pas grand-chose d'heureux. Hein. C'est brutal, on est malade, les travaux sont extraordinairement pénibles, la moyenne d'âge est très basse chez les cisterciens. Enfin bon. Eh bien, la frugalité, bien sûr, est garantie. Hein. La vie est très rude. On vit très sobrement et ça n'a apparemment pas grand-chose d'heureux. C'est une heureuse frugalité que cette rudesse du combat, parce qu'elle est, en fait, le maître mot de ce combat pour Bernard, c'est le dépouillement. Et pour lui, le pire de notre humanité, c'est l'encombrement, ce que Pascal appellera la distraction. En gros, il vise Cluny. Il trouve que Cluny est trop embourgeoisé, trop lié économiquement à sa puissance. Et donc, lui, il veut une espèce de dépouillement et il la juge heureuse parce qu'elle produit une sorte de libération. Voilà, elle dégage de choses dont finalement Cluny va devenir esclave. Son pouvoir politico-économique. Alors, ce qui est très intéressant, c'est pour ça que je finis Bernard avec cette photo admirable. Je crois que c'est Fontenay. Ouais, c'est Fontenay, ça. C'est que l'art qu'il a suscité, Saint-Bernard, il n'est pas architecte hein, lui-même, mais comme il a voulu tout dépouiller, son architecture aussi est très dépouillée. Il n'y a pas de chapiteaux sculptés. Vous voyez, c'est des formes d'une élégance invraisemblable. Ce qui nous laisse deviner quand même qu'il y a dans la frugalité quelque chose d'authentique et heureux au sens qu'on n'est pas réduit à quelque soumission que ce soit. Passons à Saint François, second personnage. Alors lui aussi, frugalité heureuse, c'est-à-dire pour le coup, source de bonheur. Ce n'est pas que l'authenticité, mais c'est un vrai bonheur, une joie, une sorte de plaisir de l'existence, alors qu'il vit, lui aussi, une très grande frugalité, mais ce n'est pas la même. Inutile de préciser que le rapport de François à la nature n'a pas grand-chose à voir avec celui de Saint-Bernard. Bon, vous voyez les dates, hein, Saint-François, c'est un siècle après Saint-Bernard. Il est mort assez tôt, hein, à 44 ans. C'est un ascète, lui aussi. Pauvreté, rusticité, dépouillement, mais pas du tout dans le même esprit. Lui vise le détachement de la pauvreté, c'est-à-dire une rupture avec les ordres religieux bénédictins à propos desquels Saint-Bernard avait bien averti qu'à cause de leur richesse, ils allaient vers leur perte. Eh bien, c'est du temps de Saint-Bernard, du temps de Saint-François, c'est fait. Les bénédictins sont complètement engoncés dans des problèmes d'administration financière, de dette, et ils n'ont plus la pureté des origines. Évidemment, les cisterciens eux-mêmes, il faut bien le dire, au bout d'un moment, vont être eux aussi victimes de leur enrichissement. Parce que qu'est-ce que vous voulez, on ne met pas une centaine de bonhommes ou un niveau d'ingénieur qui donnent sans compter, qui ne comptent pas leurs horaires, qu'on ne paye pas dans le même endroit, sans que c'est une formidable efficacité économico-industriel. Et donc, l'ordre de cistercien, lui aussi, va basculer dans l'aisance, dans le confort, disons, on dirait aujourd'hui dans l'embourgeoisement, quelque chose comme ça, vous voyez. Alors, Saint-François voit ça, et lui, il n'en veut pas. Lui vise donc cette espèce de rupture, et vous connaissez sa vocation. Hein. Je vous rappelle pour mémoire, mais on en a quand même beaucoup parlé, quand le pape François a été élu et qu'il a choisi ce nom-là. Donc on a tous relu la vie de Saint-François, c'est absolument passionnant. Son père était un drapier très riche à Assise, et il crée une cogérance avec son fils, François, et manque de chance, François donne les bénéfices d'une manière excessive. Il les donne aux pauvres, enfin, il organise une maladrerie, enfin bref, il dépense l'argent du papa un peu à tout va, et le père lui fait un procès. Quelle bonne relation ils ont. Hein. Il fait un procès, et à l'époque, il n'y a pas de cour comme aujourd'hui, hein. Et donc à Assise, c'est l'évêque qui fait fonction de juge. Donc on se retrouve au palais épiscopal, et à ce moment-là, le procès commence, bon, très bien, et François se met nu devant tout le monde dans la salle du procès. Alors, l'évêque, que vous voyez ici, là, c'est une petite scénette en grandeur réelle, hein, c'est ce qu'on appelle les sacrimunti en Italie, du côté du lac d'Orta. L'évêque, à ce moment-là, le recouvre de sa chape. Non pas que ce soit un homme particulièrement pudibond, mais il a compris. Il a compris l'intuition de François, et quand il le recouvre de sa chape, il veut dire à tout le monde: vous ne touchez plus ce gars-là, dorénavant, il est à moi, il est sous ma protection. Et en effet, c'est à partir de ce moment-là que ça va se développer. Intuition formidable, hein, cet évêque. On devrait le canoniser lui aussi, hein, parce qu'il y a quand même des évêques, vous voyez, qui ont des vraies belles intuitions, hein, des évêques et des papes, parce que le pape de l'époque a également promu Saint François et son ordre. Or, ça allait contre beaucoup de comportements des prélats. Donc, vous voyez, il y a là un vrai courage. Donc, tous ces gens-là, quand même, ont fait montre d'une vraie vertu évangélique. Alors, François, donc, ne veut pas de palais, pas de monastère, pas de cloître, pas de maison mère, pas de bénéfices. Bon. Parce que, dit-il, et voilà la clé pour comprendre et entendre un nouveau rapport au monde, parce que, dit-il, la nature sera votre cloître. Le cloître, c'est-à-dire le lieu du recueillement, c'est la nature, qui aurait plutôt tendance à être pensée comme lieu de dispersion. Hein. Eh bien non, lui, il dit, ce sera votre cloître. Donc un tout autre rapport à la nature par rapport à Saint Bernard. Hein. Le rapport à la nature, très différent. Il n'y a plus de lutte, il n'y a pas non plus de maîtrise de la nature, il n'y a pas de mainmise, bien sûr. Le rapport à la nature, c'est de contemplation, de retenue, de gratitude et d'émerveillement. Vous connaissez évidemment l'hymne au frère Soleil. François vit une sorte de fraternité universelle, un respect de tout le monde créé, du vivant, des arbres, des montagnes, des collines, du vent, du froid, etc. C'est-à-dire la nature, pour lui, n'est jamais réduite à un ustensile. Elle est utile, certes, et elle fait notre bien, évidemment, mais elle n'est jamais uniquement un objet disponible. Elle n'est pas à ma disposition. Ou alors, c'est très curieux hein, d'utiliser ce vocabulaire, ou alors il faut obtenir son accord. Obtenir l'accord de la montagne et obtenir l'accord de la fontaine. Voilà, pour l'époque et encore de nos jours, c'est quand même un discours très étrange. Ce n'est pas sans raison, bien sûr, que le pape a choisi ce prénom de François, lui qui est l'auteur de Laudato Si, qui a eu tant de succès. Alors, j'insiste pas sur ce côté-là, parce que c'est quand même bien connu, mais vous voyez bien que cette figure si populaire ne l'est pas sans raison. Hein. François a été canonisé 2 ans après sa mort, autant d'ailleurs, ça c'est à noter aussi, hein, autant par la vox populi, par le peuple, que par les prélats romains. Et c'est-à-dire, il y avait à Rome un grand nombre de gens qui disaient « mais oui, cet homme a raison ». Et avec sa frugalité heureuse, avec son rapport au cosmos, il a raison. Alors évidemment, il était un peu le poil à gratter de l'Église du XIIIe siècle, hein, mais il avait raison. Donc voilà, vous voyez, c'est la pensée de saint François, c'est une pensée écologique avant l'heure. Mon deuxième groupe de personnages, un peu dans la même période, c'est, j'ai mis sous l'intitulé « Jouir du monde ». C'est-à-dire y éprouver du plaisir, de la joie. Alors, il y a Hildegard von Bingen, très connu, et Saint Bonaventure, probablement que vous connaissez un peu moins. Hildegard von Bingen, j'y ai déjà fait allusion la dernière fois, mais là, on va un peu approfondir. Elle est contemporaine de Bernard, et Saint Bonaventure, un siècle après, lui est disciple de François. Donc, vous voyez, il y a ces deux binômes-là qui sont liés. J'ai donné comme intitulé à ce second groupe « Jouir du monde », c'est-à-dire « fruitio », en latin, ce qui veut dire « en tirer du fruit », un fruit de plaisir, de jouissance, d'épanouissement. Alors, Hildegard von Bingen, vous avez ses dates sur la feuille, hein, elle est morte en 1179, elle assez âgée. Elle avait 80 ans. Nous l'avons rapidement mentionné dans mes 6 visions du monde, et je disais alors qu'elle était typique de cette période carolingienne où tout était pensé sous les mêmes règles. Vous savez, vous souvenez de ça, et c'est ce qu'on appelait à l'époque carolingienne les harmonies générales, ou si vous voulez, les règles de proportion divine, ou les règles d'accordaille. Alors, on va voir un peu plus de précision sur cette pensée. Hildegard est allemande, bénédictine et abbesse. À son époque, il y a comme ça un certain nombre de femmes tout à fait remarquables qui sont abbesses et qui vont avoir beaucoup d'influence. Elle est dotée de visions. Et là aussi, très curieusement, elle a des visions un peu bizarres, je vais vous montrer quelques-unes. Le pape l'a soutenue. Le pape qui était à Trèves en déplacement a soutenu Hildegard von Bingen et du coup, bon, elle a été reconnue par le magistère, disons, alors que ses visions sont un peu étranges. Elle est dotée de visions, donc, vous disais-je, elle les dicte. Vous voyez, sur cette miniature, vous voyez, il y a comme un feu et puis en face, il y a un gars qui fait, qui écrit. Il y a des enlumineurs et des scribes qui font exactement ce qu'elle leur raconte. Voici par exemple un des folios, hein, vous voyez Hildegard en bas à gauche, et c'est une de ses visions. C'est très étrange. Hein. Ce sont quasiment des petits traités d'anthropologie qui expliquent les rapports de l'homme avec son milieu naturel. Alors ici, bien sûr, vous avez l'homme avec les travaux des champs et les saisons, selon les souffles, les vents. Aujourd'hui, on parlerait de flux, de force tellurique, de flux magnétique. Vous voyez, avec ces cercles que vous voyez, avec un cercle de feu, un cercle noir, un cercle de l'éther, un cercle à queue, etc. Et on voit des orbes différents qui enveloppent le monde habité, cultivé, avec des saisons, etc. Ou bien celle-ci, vous voyez l'homme qui est comme traversé par les mêmes énergies divines, les mêmes énergies cosmiques. Et son corps dépend des saisons, sa santé, ce qu'on appelait à l'époque les humeurs, c'est-à-dire les flux, parce qu'on croyait qu'il y avait des flux qui circulaient en l'homme, sont en fait dépendants, interagissent, sont sensibles aux flux cosmiques. Donc voilà, vous voyez, c'est des théories très... très intéressante. Et alors pour elle, la bonne santé et le bon respect du monde consiste à ce que tous vivent en harmonie. Voilà, que l'homme ne vienne pas dérégler les choses et les choses vont faire, vont aider l'homme, vont promouvoir sa santé. Voilà, alors je vous rappelle, hein, l'homme est en connexion, en communion avec le monde alentour, c'est-à-dire avec les saisons, avec les cycles astro, avec les proportions des paysages. Il y a des paysages dans lesquels il a le vertige, d'autres dans lesquels il se repose, mais il est aussi en connexion avec les végétaux, avec les animaux, avec les règles musicales, etc. Vous savez que Hildegarde propose même des recettes, parce que l'homme est évidemment en contact harmonieux avec toute la nourriture végétale. Et donc cette nourriture végétale, savamment ordonnée, soigne, apaise telle ou telle humeur du corps humain. Bon voilà, vous connaissez tout ça. Et elle est même créatrice d'une bière. Bah oui, moi j'ai toujours dit que la bière, ça guérissait de tout. Et là, il y a deux malins du nord de la France qui ont eu l'idée, il y a une vingtaine d'années, de commercialiser le Folio 24. Donc, ils ont appelé ça Page 24, parce qu'un folio, plus personne ne sait ce que c'est. C'est une feuille libre, un folio. Hein. Alors qu'une page, c'est dans un livre, c'est relié. Et donc, le Folio 24 donnait une recette de bière. Ils l'ont faite, et elle est très bonne. Et donc, aujourd'hui, elle est commercialisée. C'est pas mal du tout. Ces visions, vous disais-je, sont très bien reçues par le pape de l'époque, Eugène III, à Trier, rêve en Allemagne, sur la Moselle, en 1148, lors d'un concile local, parce que cette perception de l'homme en ce monde exprime parfaitement la pensée de l'Église sur les harmonies générales. Et donc, c'est la raison pour laquelle le pape va complètement donner son accord. Mise en théorie à la période carolingienne, cette façon d'être au monde pose d'emblée que le Logos divin a tout ordonné selon des règles harmonieuses qui ne sont pas perdues. Et donc, ces règles ordonnent le corps humain, mais ordonnent aussi les gammes musicales, ordonnent aussi les végétaux entre eux. Si vous voulez, c'est une espèce de permaculture totale. Aujourd'hui, ça revient très à la mode, un peu d'ailleurs grâce à Hildegarde. C'est ainsi que, outre la pharmacopée, hein, pour soigner les gens, il y a, et Hildegarde en parle, une musicothérapie. Alors c'est très intéressant, la musicothérapie a toujours existé, hein. Mais vous avez un texte de Boès que je vous ai mis, que je vous lis, je vous l'ai mis sur la feuille, je vous le lis. Regardez comme c'est intelligent. Il y a trois sortes de musique, dit-il. La musique cosmique, la musique de l'âme et la musique instrumentale. C'est quoi la musique cosmique? Ce sont les orbes célestes, c'est-à-dire, vous savez, les fameux cercles que je vous montrais tout à l'heure autour de l'homme, c'est-à-dire, en gros, les écliptiques, le zodiaque, les lunaisons, bien sûr, le cycle de la lune, c'est très, très important. Et donc, il y a, dit-il, trois sortes de musique, parce que ces orbes célestes, ça fait de la musique, parce qu'il y a des frottements. Vous voyez, on croit que comme il y a des frottements, il y a forcément de la musique, ça fait du son. C'est très drôle. Et donc, voilà Boès, il y a trois sortes de musique, la musique cosmique, la musique de l'âme, c'est quoi? C'est votre sentiment intérieur. Comment êtes-vous? Et aujourd'hui, comment êtes-vous? Bien, pacifié, amer, dans le regret, dans la turbulence, dans la colère. Ça, c'est ça, la musique de l'âme. Et il y a une espèce de douce musique de l'âme qui met le cœur en paix. Et la musique instrumentale, c'est celle qu'on joue. Continuons la citation. Correctement pratiquée, celle-ci, la musique instrumentale, aide la seconde, la musique de l'âme, à s'accorder avec la première, la musique cosmique. Ah, c'est vachement intéressant. Hein. Ça veut donc dire que la musique vous fait entrer mieux en communication, en communion, en estime avec le monde alentour. C'est une véritable musicothérapie. C'est quand même assez extraordinaire. Hein. Boès, c'est le VIe siècle, hein, tout début du VIe siècle. Et donc, il y a toujours eu cette pensée, hein, et même dans la Bible, d'où la miniature que je vous montre ici. Là, vous connaissez cette scène, bien sûr. Hein. C'est Saül, qui avait des crises de nerfs, et le futur roi David, lui jouait de la sitar. Voilà, et donc, il apaisait le roi Saül. Donc voilà, vous connaissez cette histoire. Donc on a ça dans la Bible, on a ça dans la tradition médiévale. Et moi, j'ai même vu un hôpital psychiatrique ottoman du XVIe siècle, où c'était à Edirne, en Turquie, où il y avait dans une partie de l'hôpital, il y avait un centre de musicothérapie. Voilà, donc c'est vraiment extraordinaire. Et ça remonte à cette théorie des harmonies générales. Et aujourd'hui, c'est parfaitement admis. Hildegard, d'ailleurs, est très connue de nos jours. Je rappelle que le pape Benoît XVI en a fait un docteur de l'Église. Elle est connue surtout pour ses recettes, hein, il faut bien dire, pas tellement pour sa théologie ni pour ce que je viens de vous exposer. On est sûr que tous les disciples de Hildegard, on n'est pas sûr, voulais-je dire, que tous les disciples de Hildegard soient des bons chrétiens. Mais par contre, tous croient qu'il y a en effet un rapport à la nature qui nous fait communiquer avec elle et qui nous fait donc aller mieux. Et le monde irait mieux avec ce type de rapport, vous voyez, où on passe son temps à se faire du bien mutuellement. Hildegard, elle est absolument sûre que ce monde n'est pas chaotique. Donc elle n'est pas dans le trip de Saint Bernard, alors qu'elle lui est contemporain, et elle est sûre qu'il y a dans le monde les traces de l'Éden, c'est-à-dire du paradis. Hein. Elle dit « le paradis n'est pas perdu, il rhizome », pour reprendre une expression végétale, « il rhizome jusqu'à nous, et il est comme souterrain, et il émerge ici ou là, sous la forme de la pharmacopée, sous la forme, je ne sais pas moi, d'une fontaine d'eau pure, etc. etc. » Et tout est là dans le monde, le paradis certes est caché comme caché, mais on peut en chercher les traces. Donc voilà la théorie d'Hildegard, c'est absolument extraordinaire. Et ça c'est l'abbaye de Aibingen où elle était. On va voir maintenant Saint Bonaventure. Saint Bonaventure, 13e siècle, il reprendra cette idée. L'idée que je viens de dénoncer avec Hildegard, et lui, il appelle ça les vestiges. Là où elle parlait de séquelles de l'Éden, lui, ce sont les vestiges du paradis. Un mot sur Saint Bonaventure, c'est l'intellectuel de la bande. Un siècle après Hildegard, il est franciscain, donc fils spirituel de Saint François, et il deviendra même supérieur de l'ordre. Mais c'est d'abord un intello. Hein. Il fait des études remarquables, il est contemporain de saint Thomas d'Aquin, et ils soutiennent leur thèse le même jour à l'Institut catholique de Paris. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, la modernité, le siècle, disons, les siècles de la Renaissance jusqu'aux Lumières, a rompu sur deux aspects avec la tradition chrétienne. La théorie des harmonies générales, dont je viens de vous rappeler l'importance, et elle a rompu avec la pensée de la création continuée. Ah, voilà une notion très importante, hein. La création continuée. Ça veut dire, si vous voulez, que Dieu n'a pas créé jadis, dans un lointain passé, puis se serait retiré. Non, non, la création continue, dans une espèce de dynamisme, toujours maintenu le dynamisme par Dieu. Depuis la modernité, en effet, hein, grâce aux nouvelles découvertes scientifiques, la question de l'origine s'impose, c'est-à-dire comment c'est venu tout ça. Puis bientôt, vous savez, la théorie de l'évolution, c'est-à-dire comment ça s'est fabriqué. Et on s'est beaucoup interrogé sur la question du commencement. En fait, ce n'est pas vraiment la question de la tradition catholique, mais qui s'est pourtant engouffré dans ce débat scientifique. Pourquoi ? Parce que les nouvelles théories qui émergeaient, vous le savez bien, hein, ne mettent plus la Terre au centre du monde, ni l'homme comme centre de la Terre. Et à cause de ça, vous voyez, on va se disputer avec les scientifiques de l'époque. C'était une impasse, c'était pas notre sujet. Notre sujet, nous, c'est de comprendre la création continuée. Ce n'est pas de savoir comment et à quel moment ça s'est fabriqué. Donc voilà, là on a fait un peu on s'est pris les pieds dans le tapis avec une période qui était fascinante. Hein. 16e, 17e, 18e siècle, c'est fou ce qu'on a découvert. Quoi. C'était la grande période des découvertes ou la période des grandes découvertes avec un enivrement généralisé. Et même les prêtres savants étaient enivrés par toutes ces découvertes. En fait, il est plus important pour nous, plutôt que de s'occuper de savoir comment, est-ce qu'il y a eu un Big Bang, est-ce que la Terre est au centre ou est-ce que c'est le Soleil, bon, il était plus important pour nous de penser que le créé tient en permanence son être de ce qui le crée. Je répète la formule, elle est de saint Thomas d'Aquin. Le créé tient en permanence son être de ce qui le crée au présent. Hein. Et donc voilà ce qui est hyper important. C'est ça qu'on appelle la création continuée. Alors, on va nuancer avec la création maintenue. La création maintenue, si vous voulez, c'est le fait que Dieu maintienne ce dynamisme, cette volonté créatrice dans le monde. Et donc, quand le monde change, quand il évolue, c'est encore le créateur. C'est-à-dire, il n'a pas créé jadis, puis s'est retiré, en laissant faire la machine. C'est lui qui est à la source de ce dynamisme promotionnel des choses. Et alors, la nuance avec création, ça c'est la création maintenue, et la création continuée, c'est quoi? C'est le fait que Dieu est confié à l'homme de participer à l'œuvre créatrice. Et donc, l'homme doit continuer le ministère, si vous voulez, de la création. Il doit continuer à œuvrer à l'œuvre du Créateur. Or, dans cette maintenance du Créateur dans le créé, l'homme tient un rôle déterminant. Il tient trois rôles. Donc, dans cette création continuée, création maintenue. Tout ça, c'est dans Saint Bonaventure. Hein. On est toujours dans Saint Bonaventure. Trois rôles. Il est le guetteur, il est le gardien, il est le pontife. Alors, je vais expliquer. Si l'on en croit Saint Bonaventure, Dieu a créé le monde pour s'y déployer. Il s'y déploie sous la forme du bon et du beau. Vous voyez, le monde, en quelque sorte, est le terrain d'expression de Dieu. Dieu se manifeste, se rend lisible dans la nature, dans la beauté, dans la bonté, dans son fonctionnement. Le monde vient de Dieu, il déclame Dieu et il y conduit. C'est en ce sens que l'homme devient guetteur, parce que si on peut lire la présence de Dieu, alors il faut qu'il y ait un lecteur, il faut qu'il y ait un lecteur attentif et qui se rende attentif aux choses. Et donc, l'homme va contempler et jouir de la nature. Où est écrit, dit Bonaventure, d'où cette photo, où est écrit la Trinité sous forme. Alors, vous voyez, c'est un petit peu subtil comme pensée, les médiévaux aiment beaucoup ça, hein, au XIIIe siècle. La Trinité est écrite sous forme, donc la présence de Dieu sous forme de vestiges, d'images et de ressemblances. Les vestiges, on en a parlé avec Hildegard von Bingen, c'est la même chose. Hein. D'images de Dieu, eh bien, c'est la beauté du monde. La beauté des choses, l'évidence beauté qui nous saisit. Et la ressemblance, c'est quoi ? Eh bien, c'est le sentiment qui naît en vous face à la beauté des choses. Vous voulez en être. Donc voilà la trace de la Trinité dans la création. Et donc Dieu peut être trouvé par qui sait guetter, par celui qui sait lire le livre de la nature, se laisse déchiffrer. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a une différence entre Augustin, par exemple, grand saint Augustin au IVe siècle, pour qui il fallait chercher Dieu au-dessus des choses sensibles. Et puis, il fallait chercher Dieu au-dedans de nous. Pour Bonaventure, on peut le trouver non pas au-dessus des choses sensibles, non pas en les quittant, non pas en quittant les choses sensibles, mais en y allant. C'est dans les choses sensibles, dans la nature, dans l'émotion que ça nous produit, dans la jouissance que ça nous produit, que nous allons pouvoir le trouver. Et si vous voulez, Augustin, il est platonicien. Alors, regardez ce vitrail. Augustin, il dit, l'essentiel pour nous, C'est la lumière qui est par-delà le vitrail. C'est la lumière qui donne au vitrail d'être vitrail. Et donc, pour moi, dit saint Augustin, c'est la lumière source qui m'intéresse. Bonaventure dira « mais non ». Enfin, il dit pas « mais non ». Mais il ajoute en disant « Dieu se laisse trouver dans la matière ». Alors, il y a déjà, avant lui, il y a Denis l'Aréopagite qui avait pensé ça. C'est un moine syrien du VIe siècle. Vous voyez, il y a deux manières là qui font partie de la tradition de l'Église. Mais pour Bonaventure, il faut donc apprendre à trouver, comme disait Hildegarde, les traces de l'Éden dans le monde. Il faut en faire le meilleur usage. Et c'est d'ailleurs honorer les choses d'une très haute dignité. Les choses ne sont plus un matériau, vous voyez. Ils sont comme le vocabulaire, comme les phrases, comme la grammaire du livre de la nature. Bon, voilà. Et c'est... Alors, je disais, guetteur, gardien. Mais comment l'être gardien ? Hildegard von Bingen et avant elle, Alcuin, vous savez, le ministre de Charlemagne, nous font voir la création ordonnée par des règles de juste proportion. Bon, tout est harmonieux, situation paradisiaque, qui, pour eux, n'est pas perdue, mais se laisse voir par le guetteur. Bon, tout ça, on a vu, on vient de le voir. Et dans ce monde créé harmonieusement, l'homme, et voilà comment il est gardien, l'homme doit rentrer dans l'ordre. Il doit rentrer dans ses règles harmonieuses. C'est comme ça qu'il va être gardien. C'est-à-dire, si vous voulez, garde-toi de troubler les harmonies cosmiques. L'homme, et pourquoi doit-il faire ça ? Parce qu'il est le microcosme de ce macrocosme. Le monde est comme, pas contenu bien sûr, mais le monde est comme connecté et influencé par lui. Certes, l'environnement influence et la corporité, et le mental, et l'esprit, et les sentiments, et les sensations, bon, bref, tout ça sur le corps humain, mais l'inverse aussi. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça veut donc dire que notre comportement a de l'influence, et voilà la pensée écologique, notre comportement a de l'influence sur l'harmonie générale du monde. C'est-à-dire, tu te comportes mal, l'important, c'est pas que c'est une affaire de péché, vous voyez, comme si tu te souillais. L'important, c'est que tu dérègles les choses. C'est-à-dire, tu vas à l'encontre du logos créateur qui était si lisible, tu vas le rendre illisible. Et c'est pourquoi il faut pratiquer les vertus. Alors voilà, ça c'est, alors je sais pas si je vous l'ai mis en citation, je vous l'ai pas mis. Il y a un auteur du Moyen-Âge qui s'appelle Elias, qui dit ceci à ses étudiants, à Paris. Que l'étudiant soit dans sa vie ordonné et forme un microcosmos, afin que par l'intermédiaire de l'ordre qui est en lui, donc vous voyez, il faut que ce soit un étudiant studieux, pas trop dissipé, afin que par l'intermédiaire de l'ordre qui est en lui, il connaisse l'unique principe de tout, c'est-à-dire ils connaissent le logos, connaît Dieu. En effet, l'ordre est dirigé par l'un, avec un U majuscule, c'est-à-dire par Dieu. L'ordre est voulu, voilà la création maintenue. Vous voyez, l'ordre est dirigé par l'un. C'est-à-dire si tout est harmonieux, c'est parce que Dieu l'a voulu. Cette volonté divine, cette volonté du Créateur, voilà la création continue, la création maintenue. Alors donc, je reprends la citation, « Que l'étudiant soit dans sa vie ordonnée et forme un microcosmos, afin que par l'intermédiaire de l'ordre qui est en lui, il connaisse l'unique principe de tout. En effet, l'ordre est dirigé vers l'un. Et que, par l'intermédiaire du microcosmos qui est en lui, microcosmos de ses vertus, il connaisse le cosmos, c'est-à-dire l'ordre, c'est-à-dire la nature, c'est-à-dire son promoteur, c'est-à-dire Dieu. Or, il sera microcosme si, comme dans l'univers, cosmos, Les choses meilleures l'emportent en lui sur les moins bonnes. Donc voilà, vous voyez, c'est une fort belle manière d'exhorter les étudiants à régler leur vie. Non pas parce qu'ils font de meilleures études, non pas parce qu'ils réussiront leur bac ou leurs examens, mais c'est pas non plus pour pas se ruiner la santé, mais parce que comme ça, ils connaîtront le cosmos. C'est-à-dire, ils verront, connaître, ça veut dire faire l'expérience. Ils feront l'expérience que le monde est ordonné, dirigé, animé. Il est créé. Voilà, c'est Elias, un auteur du XIIe siècle. Et donc, voilà en quoi nous sommes gardiens. Les gardiens de la création, l'homme l'est encore, bien sûr, par la mission qu'il a acceptée, qui est la création continuée. Donc, il y a la création maintenue et la création continuée. La création maintenue, si vous voulez, c'est le dynamisme. C'est ce qui fait que les choses grandissent, voilà, sont animées. Et la création continuée, c'est le travail de l'homme. Aussi humble soit-il, jusqu'au travail de laboratoire et même le travail d'enseignement. Donc voilà pour le principal de Bonaventure. Je rajoute un point parce que c'est assez rigolo. Je vous ai dit tout à l'heure qu'avec Bonaventure, il y avait un retour de la dignité de la matière. Oui, mais il y a une estime, bien sûr, à l'égard du monde, à l'égard des choses dont il faut jouir. Mais, dit-il, à condition qu'on sache user droitement des choses sensibles. Alors aujourd'hui, vous voyez, on dirait un auteur comme Charles Taylor dirait pas droitement, parce que droitement, ça relève un peu du droit, c'est des règlements. Charles Taylor dirait user authentiquement des choses sensibles. C'est-à-dire authentiquement, ça veut dire qu'est-ce qui va te détruire, qu'est-ce qui va te grandir. Il y a une vie authentique et une vie inauthentique. Il y a une vie qui va vers la déchéance, hein, le consumérisme, l'indifférence aux autres, ça va vers la déchéance. Et il y a une vie authentique. Probablement la frugalité, le fait de profiter des choses et non pas de s'en saturer, etc., etc. Alors lui, il dit « user droitement des choses sensibles ». J'explique un peu. C'est un comportement à l'égard du monde. N'oubliez pas qu'il est franciscain, hein, et donc il a de l'estime pour la matière, pour le végétal, pour l'animal, pour les harmonies, et surtout pour le soin mutuel que tous s'apportent. Hein. Et donc, fruitio, ça veut dire jouir, profiter, y trouver du plaisir, de la joie, de la satisfaction, sachant que ce juste usage apportera comme une réciprocité. C'est-à-dire, si nous usons bien des choses, les choses s'en trouveront bien. Voilà, donc voilà la clé. Hein. User droitement, c'est-à-dire avec mesure, tempérance, gratitude. Si les choses ne s'en trouvent pas bien, alors c'est que nous n'en usons pas droitement. Voilà une pensée écologique avant l'heure. Hein. Donc j'ai dit que l'homme était guetteur, gardien, et voilà maintenant qu'il est pontife de la création. Et c'est donc l'objet du chapitre suivant, qui va nous prendre tout la deuxième partie. Le pontife, c'est-à-dire c'est celui qui relie le ciel et la terre. C'est donc mon chapitre qui s'appelle « Cosmos et liturgie ». Alors, allons-y. Voilà le plan plus précis. Je vais commencer par l'universel gémissement, vous allez voir, c'est assez biblique. Puis la joie du monde, on est vraiment dans la fruitio de Bonaventure, que je développerai en trois points, et la manifestation des fils de Dieu en quatre points. Alors, l'universel gémissement, qu'est-ce que c'est que ça? Probablement connaissez-vous cette expression. Elle est de Grégoire de Nazianze, qui, au IVe siècle, en Cappadoce, écrit des poèmes liturgiques, dont un qui est vraiment très beau, qui s'appelle « Ô toi, l'au-delà de tout », où nous lisons, je vous l'ai mis, je crois, sur la feuille, je vérifie, oui, je l'ai mis sur la feuille, où nous lisons « Le désir universel, l'universel gémissement tend vers toi ». tout ce qui est te prie, et vers toi, tout être qui pense ton univers fait monter un hymne de silence. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Eh bien, par gémissement, il n'entend pas d'abord plainte ou souffrance, mais désir. Et l'universel gémissement, pour lui, c'est la montée d'une hymne de silence. C'est-à-dire, toute chose veut louer le Créateur. Toute chose dans le monde, même si elle est jugée dégradée, en fait, elle veut louer le Créateur. Ça, c'est une étrange vision, hein, pré-écologique, presque chamanique. Et c'est très étrange. Hein. Et ben, ça appartient à la tradition de l'Église, qui est quand même invraisemblable. C'est assez génial. Quoi. C'est donc une hymne de silence. Ça veut dire que, en fait, le monde est créé et les œuvres créées portent comme vocation de louer leur Créateur. Et la vocation est de s'accorder, de se déployer et de manifester, de rendre manifeste la beauté du Verbe éternel. Donc voilà, c'est ça la vocation de toute chose. Et c'est, dit-il, une hymne de silence, c'est-à-dire qu'il ne monte pas à la phonation. Et c'est nous qui allons réussir à écrire des poèmes là-dessus, à chanter des chants. Voilà, donc nous, on va le faire monter vers la louange, disons, avec des phonèmes, avec du son, avec de la musique, voilà. Alors que la louange, elle est là, elle est dans les choses. Donc ça, c'est quand même une extraordinaire pensée. Hein. Nombre de poèmes de l'Ancien Testament, de poèmes bibliques, le disent, attestent de cette théorie. Hein. Par exemple, le Cantique des Cantiques, vous savez, c'est pas le Cantique des Cantiques, le Cantique de Daniel, dans le livre de Daniel. Vous savez, c'est les trois jeunes gens dans la fournaise qui ont été à la cour du roi assyrien et qui ne veulent pas renoncer à la religion juive. Alors, ils sont jetés dans le feu. Enfin bon, et dans le feu, et ben, ils sont protégés par un ange, ils ne sont pas brûlés et le roi les entend chanter. Et qu'est-ce qu'ils chantent ? Donc, le livre de Daniel nous le dit. Qu'est-ce qu'ils chantent ? Ben, ils font chanter le cosmos tout entier. Ce n'est pas tellement eux qui chantent en disant « Youpi, on a gagné contre le méchant roi ». Non, non, ils disent « Vent et pluie, bénissez le Seigneur, les animaux et les hommes, bénissez le Seigneur, les saisons et les montagnes, bénissez le Seigneur ». C'est-à-dire le cosmos tout entier. Ils sont pontifs. Mais ils prêtent leur voix à la louange cosmique. « Et vous, la fraîcheur et les brumes, bénissez le Seigneur. Et vous, le gel et l'hiver, bénissez le Seigneur. Et vous, sources et fontaines, bestiaux et bêtes de la terre, etc. Bénissez le Seigneur. » Et donc, c'est ça et la séminale liturgie du cosmos. C'est-à-dire, le cosmos est comme ensemencé d'un désir de louer le Créateur. Voilà, c'est ça que j'entends par liturgie cosmique. Vous voyez, alors, sauf que, mais il y a un désir incroyable du cosmos de chanter son Créateur, sauf que l'homme a tout salopé. Alors, par deux fois, enfin, quand je dis l'homme a tout salopé, pas tout, non, puisqu'il y a des séquelles de l'Éden, vous vous souvenez, Hildegarde, Saint Bonaventure. Mais quand même, on a méchamment dégradé le truc. Deux fois, par deux fois, la Bible médite sur ce fait. Le fait que notre vocation à nous humaniser et notre vocation à servir de pontife pour le monde s'est dévoyée. Nous avons quitté la route. Et intuition incroyable, hein, bien avant qu'on eût quelque idée que ce soit de l'écologie, la Terre en a souffert. Souffert, la Terre. Alors, le péché de l'homme fait souffrir la Terre. Quelque chose, en effet, de l'harmonie normale entre les créés, hommes, bêtes, terre, végétaux, climat, quelque chose a été déréglé. Et donc, il y a d'abord le récit du premier meurtre dont vous avez l'image ici, hein, avec cette parole terrible. Hein, donc, c'est Caïn qui tue Abel, vous vous souvenez de ça? Et à ce moment-là, Dieu dit, « Qu'as-tu fait? Écoute le sang de ton frère crier vers moi depuis la terre. » Maintenant, je continue la citation, « Maintenant, sois maudit et chassé de la terre fertile, et le mot revient, hein, qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère. » Et comme si c'était un être vivant. Très, très étrange comme manière de parler. C'est dans Genèse, chapitre 4. Maintenant, sois maudit et chassé de la terre fertile qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère. Dorénavant, si tu cultives la terre, elle ne te donnera plus son fruit. Avant, entre toi et elle, il y avait une espèce d'entente. Tu la travaillais, elle t'offrait le fruit de son sein. Maintenant, ce sera laborieux. Pourquoi ? Parce que tu lui as fait boire le sang du meurtre. Tu l'as souillé, tu l'as dégradé. Et c'est impressionnant comme pensée très écologique. Et puis, le deuxième grand récit, bah, là, vous le connaissez également par cœur, c'est toujours dans le livre de la Genèse, où nous voyons alors le mal tel une gangrène qui envahit tout, soit par la violence, soit par une douce perversion. Consumérisme, guerre économique, pollution, obsolescence déprogrammée, etc. Et c'est doux, ça. C'est pas méchant. Mais ça finit par tout noyer. Ça finit par tout pourrir. Tant et si bien que la terre va vomir l'homme. Ou plus exactement, va le noyer. C'est le récit du déluge. Le cosmos, mot grec qui veut dire ordre, n'en peut plus. Il recrache l'homme comme un mauvais fruit. L'universel gémissement devient alors une plainte, une souffrance. L'universel gémissement monte vers toi comme le cri de la terre qui a bu le sang du meurtre et qui endure encore les montagnes d'immondices dont nous le saturons. Là, on est plutôt du côté de Laudato si. Sauf que, là, c'est une note extraordinairement négative, presque triste, presque désespérée. Sauf que Dieu ne va pas laisser tomber. Et là, vous voyez Noé, la figure de Noé. Il confie à l'homme d'être lui-même le gardien du cosmos, le guetteur du cosmos et le pontife. Comme gardien, il devra faire alliance, respecter, chercher les vestiges d'harmonie qui demeurent dans le monde créé et les exaucer. Il devra exaucer les séquelles de l'harmonie des choses comme le Créateur les a voulues. Ah, ça, c'est très étrange. Et c'est là, dans ce ministère d'exaucement, que va rentrer l'architecture religieuse, figurez-vous. Regardez ça. On est à Tatev, en Arménie. C'est évidemment magnifique. Pensez-vous que ces bâtiments soient utiles ou nécessaires à la prière de ces quelques moines installés dans les montagnes ? Un dortoir ou des cellules auraient été bien plus utiles que ce bâtiment en pierre de taille. Il y avait tout autour de cette église, il y avait des bâtiments en matériaux non pérennes qui ont disparu depuis le XIIe siècle. Mais on a soigné ce bâtiment, l'église, parce que c'est un lieu de culte et parce qu'il est quasiment une icône. Une icône de quoi ? Il est un efficace exaucement de la terre. C'est-à-dire qu'elle est hissée, elle est rétablie dans sa vocation de soulever le paysage, de le transfigurer. Vous voyez bien, ce monastère posé là transfigure complètement le paysage, il devient somptueux. Et donc, l'architecture ici vient exaucer dans ce sens. C'est-à-dire pousser plus haut encore la splendeur des choses, presque la faire monter à l'énoncé, jusqu'à la louange, puisque dans cette église, on va chanter les psaumes de louange, et exaucer, avec un H et sans H. C'est-à-dire comme s'il y avait une demande, comme s'il y avait une demande du paysage, que l'homme prête sa voix pour que la louange soit accomplie. Et donc, l'exaucement va porter cette louange. On était en Arménie, voici maintenant le lac d'Orta, en Italie du Nord, avec au milieu l'île du monastère de Guillaume de Volpiano, qui a eu au début du XIe siècle un très grand rôle dans l'architecture de louange, précisément, y compris chez nous, en France, Sainte-Bénigne de Dijon, Tournus, Bernay, voilà, c'est Guillaume de Volpiano. Et donc là, vous voyez, on voit qu'il y a une sorte d'exaucement, c'est-à-dire la nature veut cette réponse de l'homme. La nature veut cette création continuer. Elle veut que l'homme continue le travail d'élaboration de la beauté et de la grandeur du monde. Que l'homme fasse porter du fruit à la terre. Et c'est très impressionnant hein, comme pensée. Comme si la terre demandait à être exploitée, mais exploitée au sens très noble du terme, hein, c'est-à-dire poussée plus haut encore. Et elle le veut. Voilà. C'est... Alors, c'est évidemment une partie très, très importante de mon petit développement, hein, ce que je viens de vous dire là. Alors, je vous signale que j'ai un cours à l'Institut catholique de Paris, dans un département qui s'appelle l'ISTA, Institut supérieur de théologie des arts, où là, je passe sur ce sujet 24 heures de cours, donc sur la fonction de l'architecture sacrée. Donc voilà, c'est là, je vous en ai juste donné un petit extrait, si j'ose dire. Alors, allons maintenant toujours dans la cosmos et liturgie. Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans le sujet. Hein. On a vu là que le paysage était liturge et que la voix humaine ne faisait guère que confirmer ce gémissement ineffable qu'est la beauté des choses. Le deuxième point, c'est la joie du monde. Le deuxième paragraphe avec trois points. Le chant du monde, pour reprendre le titre d'un livre de Jean Baster ou un titre de Jean Giono. Jean Baster, c'est un des penseurs de l'écologie chrétienne qui avait juste 40 ans d'avance. Le chant du monde, c'est-à-dire comment le cosmos est par lui-même, en lui-même, une liturgie. Voilà, donc je vais exposer ça en trois points. Le premier est assez classique dans la philosophie. Les deux autres sont très chrétiens, vous allez voir. Premier point, kaleo, kalon. Ça vient du grec, et déjà chez les Grecs, il y avait ce jeu de mots, kalos, ça veut dire le beau, et kaleo, appelé. Le beau appelle, la beauté inspire, la beauté promeut l'esprit, le soupir extasié, le waouh, admiration, saisissement. Ce que les médiévaux appellent la captatio. Vous êtes pris. Pris par plus fort que vous. Pris par plus essentiel que votre commentaire. En quelque sorte, pris par le haut, par les tripes. C'est-à-dire pris en vous-même. Et dans cet emportement, vous avez le sentiment de n'avoir jamais été aussi bien, autant vous-même, autant en vérité, qu'en ces instants, aussi fugace soit-il, où vous avez précisément le sentiment d'être débordé. Voilà, c'est ça l'appel de la beauté. Et c'est complètement extraordinaire. Donc on le pense dans la philosophie grecque, mais on le pense très largement, c'est très largement promu au Moyen-Âge. Et ça appelle à quoi l'appel de la beauté, la beauté appelle, mais elle appelle à quoi? Elle appelle à plus grand, à plus large, à plus haut, à plus profond. Bref, elle appelle à une espèce de moi, de vous-même, oublié, mais voulu par Dieu. Si vous voulez, un moi augmenté, ou un moi libéré de moi-même. Voilà, c'est la beauté éveille à notre vérité. Nous sommes faits pour cette grandeur. Et ces sentiments d'allégresse, de grandeur, de jouissance devant la beauté des choses, eh bien, nous sommes faits pour ça. La preuve, on ne s'est jamais senti aussi bien que dans ces moments-là. Alors évidemment, hein, entre l'amour humain et cette expérience de la beauté que je viens de vous retracer, il y a évidemment un parallèle que les médiévaux ont bien sûr fait. Kant lui-même parle alors précisément pour ces instants où on connaît l'ineffable avec évidence. Vous voyez, on fait l'expérience de ce qui nous dépasse, mais avec une évidence. Kant parle du sentiment du sublime. C'est au paragraphe 29 de la troisième critique. Le sublime vous dit que vous êtes destiné, c'est-à-dire que vous avez le sentiment, quand vous éprouvez ces moments, disons, d'exaltation, ces moments d'exaucement, vous savez que votre vérité est là, que vous êtes destiné à ça, que vous n'êtes pas destiné à la médiocrité. Ah, c'est ça le sentiment du sublime. Alors le sublime, hein, ce n'est pas se fondre dans un sentiment océanique, ce serait trop statique, hein. Mais c'est le fait d'orienter, de réformer sa vie, de réformer son désir naturel, de le hausser à cette hauteur-là. C'est la raison pour laquelle le sublime indique une vocation. Il appelle, la beauté appelle. Kaleo, kalon. C'est ce que développera d'ailleurs le pape Benoît XVI dans un texte passé quasiment inaperçu en 2012, la via pulchritu dignis, c'est-à-dire la voie de la beauté, mais via comme voie, comme chemin. La beauté s'impose, elle en impose, et elle vous demande, elle vous réclame, mais elle vous réclame plus grand que ce que vous croyez être. Deuxième point, les deux suivants seront plus avec des images. Enfin, des images, je veux dire, de l'iconographie chrétienne. Les bords du monde, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, c'est encore de l'architecture. Nous sommes à Istanbul. Ici, nous sommes d'ailleurs plutôt à Constantinople, puisque cet édifice date du XIIe siècle, mais il s'est mis en place sur un monastère qui, lui, date probablement du Ve siècle. Donc, 5e, 12e, augmenté au 14e, ce que nous avons sous les yeux, et décoré alors à grands frais grâce à un mécène qui était membre du gouvernement impérial byzantin. Donc, évidemment, ça aide beaucoup. Quelques années plus tard, en 1453, hélas, Constantinople est prise par Mehmet II. Et cet édifice, tel que nous le voyons, aura donc vécu d'une forme de liturgie byzantine pendant un siècle. Auparavant, il y avait bien sûr des chants byzantins, donc une forme de liturgie byzantine. Mais ce à quoi je fais allusion, ce sont les mosaïques. Les mosaïques qui ont été posées un siècle avant la prise de Constantinople, les mosaïques sont pour les byzantins liturges, c'est-à-dire qu'elles sont efficaces. Et quand vous rentrez dans Saint-Sauveur in Quora, vous êtes littéralement capté, envoûté, emporté, enveloppé par ces mosaïques qui sont efficaces, comme un sacrement. On appellerait ça, nous, dans notre vocabulaire, des sacramentaux. Or, tout ça, c'est une petite introduction pour vous expliquer, le lieu est appelé Saint-Sauveur in Quora. Vous voyez, si vous le voyez, regardez sur le plan, tiens, j'aurais dû le surligner en jaune, c'est tout en haut, vous voyez, la deuxième flèche du haut, on voit le mur, un mur qui a été construit, là. Et juste en dessous de ce mur, vous avez Saint-Sauveur in Quora. Voilà. D'ailleurs, je me suis trompé dans les dates, vous voyez. Le mur, tout en haut, il est du 5e siècle, et la flèche en bas, le mur que vous voyez là, est du 4e siècle. Or, quand vous discutez avec les guides là-bas, les guides turcs, ou même tout simplement ceux qui lisent les guides verts, les guides bleus, vous disent tous « Ah, mais ça s'appelle Saint-Sauveur in Quora » parce que regardez, quand le monastère a été construit, il était en dehors des murs de Constantinople, c'est-à-dire le mur du 4e siècle, celui du bas. Et en effet, dans ce cas-là, il est dans ce qu'on appelle la Quora, dans une cité grecque, c'est-à-dire une zone cultivée, intermédiaire entre la cité, qui est le cosmos, et le lointain, qui est le chaos. Et donc, sauf que le monastère, en fait, a été construit juste après l'édification du second mur, celui du 5e. Et donc, il était intramuros. Il n'a probablement jamais été dans les champs. Donc, la signification in Quora ne veut pas dire ça. Quand on dit Saint-Sauveur in Quora, on ne veut pas donner d'abord une indication topographique en disant c'était un monastère qui était dans la forêt. On veut dire que le Christ est celui qui maintient hors du chaos. C'est ça qu'on veut dire. Et Saint-Sauveur in Quora, c'est-à-dire il est aux portes du monde, au bord du monde. Vous vous souvenez, hein, le schéma que vous avez fait dans la cité grecque, la cité c'est le cosmos, là-haut, là-bas, au lointain c'est le chaos, d'où viendra l'ennemi qui nous fera la guerre. Et entre les deux, vous avez cette zone tampon qu'est la Cora. Et quand on dit Saint-Sauveur in Cora, ça veut dire que le Christ est au bord du monde et qu'il arrête la puissance destructrice, dissolvante du chaos. Il continue à être le verbe créateur qui sépare les eaux, qui ordonne le tohu-bohu. C'est le mot hébreu pour dire chaos. Voilà ce que ça veut dire Saint-Sauveur in Cora. Il est donc la paix, il est le créateur, il est le verbe créateur, il est le verbe d'une création maintenue. Alors voilà une très belle expression de cette idée géniale qu'est la création maintenue. Et le chaos est toujours là, toujours sous nos pas, toujours là-bas, au lointain, mais il est maintenu, comme, vous savez, dans le livre de Job, comme si le Christ disait « Ici s'arrête l'orgueil de tes flots ». Et comme on lit dans le livre de Job, quand Dieu crée les océans. Et c'est une chose, vous savez, que nous connaissons, hein, nous autres en Occident, puisque le Mont Saint-Michel a été construit dans cet esprit. Vous savez, le Mont Saint-Michel, au début, il s'appelait Saint-Michel au péril de la mer, parce qu'il était au bord du monde, lui aussi. Hein. Là-bas, il y avait la mer, et la mer n'était pas vécue du tout au XIe, XIIe, XIIIe siècle comme un lieu de villégiature. Hein. C'était un lieu dangereux. C'était le lieu le plus redoutable qui soit, qui avale les morts, qui ne rend pas ses cadavres. La mer allait très loin, vers l'au-delà, un au-delà immaîtrisé. On faisait que du cabotage à l'époque. Et donc, le Mont Saint-Michel s'appelle Saint-Michel au péril de la mer. C'est la même chose que Saint-Sauveur in Cora. Voilà, donc voilà, ce sont deux formes, voyez, enfin la même forme sur deux endroits différents, de cette formidable théorie d'une création maintenue. Alors, à nous, évidemment, d'entrer avec le Logos, d'entrer dans un travail de lutte contre tout ce qui serait chaotique et de vigilance pour faire naître ce qui demande à louer le Créateur. Troisième point, qu'est-ce que c'est que les invités des noces ? Là, c'est très connu, c'est le fait que qui est convoqué à cette louange ? À cette louange des choses. Nous d'abord. C'est d'abord la foule des gens. Les invités aux noces, c'est d'abord le peuple de Dieu. Mais c'est aussi la beauté du monde et tout ce qu'il contient. Et comment ça va se faire ? Comment va-t-on inviter la beauté du monde dans la liturgie pour être acteur de la louange dont nous sommes les pontifes ? J'ai collecté quelques exemples, mais vous en connaissez plein d'autres. Il y a d'abord tous les animaux, le bestiaire, incroyable, c'est très présent, surtout à la période romane. Ici, on est à Lusignan, près de Poitiers. Et autour de la porte, au lieu qu'il y ait des scènes évangéliques, il y a quoi ? Il y a des bestioles. C'est tout le monde animal, plus ou moins réel, plus ou moins exotique, qui figure la variété du vivant, couronne de la gloire du Créateur. Parmi ces animaux, certains ont des valeurs allégoriques, hein, comme par exemple la lutte des vices et des vertus, les vices qui se dévorent mutuellement entre eux, ou bien sur le chapiteau de gauche, les vices qui sont comme tenus en laisse par les vertus, donc dans ce cas-là, c'est des visions allégoriques de l'animalité en nous, ou bien les animaux ont un caractère symbolique, comme le phénix. Ah non, ça c'est toujours la lutte contre le mal. Le phénix, caractère symbolique de la Renaissance, ne pas confondre avec le pélican, symbole de l'oblation, de l'offrande de soi. Et puis vous avez évidemment dans la sculpture romane, puis gothique, et même jusqu'à la période baroque, vous avez le temps avec les travaux des champs, avec les zodiaques qui sont sculptés soit sur les façades, soit sur les tympans. Voilà. Et donc toute la nature entre en liturgie. Une autre manière de la faire rentrer, charmante, c'est celle des animaux de la crèche. Alors ça, je vous l'ai mise, celle-ci, parce qu'elle est très intéressante, hein, puisqu'elle est du 5e siècle. Et donc, elle est très antique. Hein. Dès le 5e siècle, on trouve les animaux associés à la nativité du Verbe. Et c'est surtout Saint François, bien sûr, hein, comme vous savez, qui va rendre populaire cette présence animale dans la piété. Invité aux noces également, les fleurs, les arbres, les feuillages, tous ces éléments de la nature sont depuis la période baroque très présents dans la décoration, on devrait dire l'ornement des églises. Pourtant, les invités de marque, si j'ose dire, ce sont également deux fruits de la nature, mais des fruits prodigieux, qui sont presque un miracle de la nature, miracle de la fermentation, le pain et le vin. Tous les deux, évidemment, très marqués par la culture humaine. Il a fallu inventer, comme on invente une archéologie, un site archéologique, inventer la fermentation. C'est une espèce de prédigestion qui rend comestibles les graines. Et donc, le pain et le vin sont évidemment les invités d'honneur. Ils vont être le support du corps et du sang du Christ, mais ils signifient la culture humaine, la paix, la stabilité nécessaires pour le travail des vignes et des chais. Et tous les deux viennent offrir à Dieu le miracle de la fermentation, véritable alchimie vivante et si salutaire pour l'homme. Tous les deux viennent offrir le travail social de notre humanité, les moulins à grains, le four du boulanger, etc., etc., le geste fraternel, etc. Et enfin, n'oublions pas toutes sortes de nobles matériaux hein, que les artisans ont transformés en véritable hymne liturgique. Vous voyez la beauté des choses. Hein. Ici, c'est un calice carolingien. C'est absolument extraordinaire. C'est magnifique. Une sobriété. Je rêve d'avoir un calice comme ça. Je crois qu'il est au musée de Cluny. Dernier point, en quatre aspects, la manifestation des fils de Dieu. Là encore, peut-être que vous connaissez cette expression parce qu'elle nous vient de saint Paul, qui dit, vous allez voir, comme ça a inspiré toute ma première partie, c'est un texte qui est cité également par le pape François, c'est Romains chapitre 8, je vous l'ai mis sur les feuilles, je vous le lis, et en soulignant les côtés complètement effarants. La création tout entière est en attente, elle aspire, la création est en attente, donc le rocher, les arbres, la nature, le gel, elle aspire à voir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire, elle attend que nous devenions fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, ce n'est pas parce qu'elle l'ait voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Mais c'est bien avec l'espérance d'être, elle aussi, libérée de la servitude, de la corruption, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons, en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit dans le travail de l'enfantement. C'est un texte magnifique hein, qui a été commenté par le pape dans l'encyclique Laudato Si. Et donc, comment l'homme va-t-il répondre à cette espérance de la nature et qui attend la manifestation des fils d'hommes? Eh bien, il y a quatre réponses. Alors ça, je saute. La première réponse, c'est les calendriers cosmiques. C'est une manière, en effet, de répondre à cette attente de la nature en lui montrant à la nature que nous l'avons compris. Stonehenge est ici l'exemple le plus connu, mais jusqu'à Omar Rayan, au XIIe siècle, on a bâti des monuments, plus ou moins religieux, plus ou moins des calendriers, mais en tout cas cosmiques. Il s'agissait de calculer les écliptiques, les éclipses, les solstices et les lunaisons, c'est-à-dire d'exprimer la compréhension de ce monde que nous habitions. Il s'agissait donc de comprendre le monde, d'entrer dans l'ordre de ce monde, dans le cosmos, et donc de dire non seulement qu'il y avait un ordre, que les choses n'étaient pas aléatoires, mais que s'il y avait un ordre, peut-être devions-nous y avoir une place dans cet ordre. Et donc c'est vraiment le but de ces édifices. En gros, dire au cosmos, entre toi et nous, il doit y avoir une intelligence. Il doit y avoir bon commerce, bonne intelligence. Nous devons vivre en bons termes. Regarde, nous t'avons compris. Voilà, donc les lunaisons reviennent. Nous avons compris comment tu marques. Nous parlons la même langue. Et c'est la même signification qu'il y a, vous savez, dans ces traces au sol qui sont très étranges au Pérou. Vous savez, des traces qui font des kilomètres de long, donc invisibles au sol, hein, comme si ils avaient voulu parler aux cieux, parler aux étoiles, écrire un message pour les étoiles. Voilà, donc voilà, c'est proclamer au cosmos, je t'ai compris, pour se concilier avec lui. Et bien, c'est une forme déjà assez savante de liturgie. Mais ce n'est pas seulement comprendre et calculer, hein, mais entrer en accord, en bonne intelligence. Deuxièmement, il y a une architecture cosmique chrétienne. Alors ça, vous le savez, ces installations de mégalithes, ces alignements, ces observatoires sont des architectures, des constructions qui nous permettent d'habiter le monde, mais c'est dans l'architecture chrétienne que ça a excellé. Je ne montre qu'un seul exemple. Nous y voyons d'une manière explicite la façon dont la liturgie, la nôtre, s'accorde, s'associe à la liturgie du créé, du cosmos. Alors vous connaissez bien sûr Vézelay, c'est sur une colline, donc déjà de loin, cette colline, exaucée par l'Église, devient comme une espèce de phare, de repère, de fanal, qui va orienter tout le monde alentour, qui va ordonner le monde autour de ce pôle. Voilà, donc là, il y a une efficacité cosmique de la construction de cette architecture. Et puis, il y a une espèce de, là aussi, de domination du paysage, de transformation du paysage, de réordonnance du paysage. L'édifice, en fait, est orienté, c'est-à-dire tourné vers l'Orient, et donc, en cela, il est également cosmique, c'est-à-dire il va recevoir la visite du soleil. Le soleil est son premier liturge. Et puisque c'est orienté vers le soleil levant, au matin, avant on ne disait la messe que le matin, au matin, le sanctuaire est illuminé. Et donc, la prière des hommes rejoint en quelque sorte le désir du cosmos. Et alors, à Vézelay, vous avez cette chose très étonnante. Maintenant, beaucoup de gens le connaissent, hein, c'est maintenant connu depuis une trentaine d'années. C'est qu'il, au solstice d'été, se dessine au sol un chemin de lumière. Un chemin de lumière, donc tâche après tâche, vous êtes conduit jusqu'au sanctuaire qui, lui, est illuminé. Et la première tâche, elle est juste derrière Jean-Baptiste, lequel dit « il faut que je diminue pour que lui grandisse ». Voilà ce que ça donne quand on prend la photo de la tribune. Donc voilà, ça c'est un exemple hein, d'une formidable liturgie cosmique. Mais là, pour le coup, n'importe quelle église romane, gothique, baroque, vit de cette liturgie cosmique. On joue avec le soleil, on joue avec la nature, en la transformant, en l'augmentant. Il y a aussi, pour répondre à la nature, en manifestant que nous sommes les fils de Dieu, il y a aussi une autre forme d'architecture qui consiste à s'accorder au ciel. Laissez-moi lire ici Olivier Clément, je l'ai mis sur la feuille. « Adam fut placé comme un jardinier dans l'Éden pour parfaire sa beauté. » Le gardien. L'homme est Logikos, c'est Olivier Clément, c'est un orthodoxe. L'homme est Logikos, il est le Logos créé, il doit recueillir comme un prêtre et un roi les logoi des choses pour les offrir. Au logoi incréé, lire la présence du Verbe dans le Liber Mundi, le livre de la nature. Donc voilà le pontife hein, qui apparaît, c'est-à-dire l'homme doué de logos doit recueillir les logoi des choses, donc il y a une parole des choses, et il y a l'empreinte du logos éternel. Donc voilà, ça c'est une petite citation de Clément, Olivier Clément, je vous l'ai mis, cette citation, je vous l'ai mise sur la feuille. Alors, vous avez dans ces accordailles entre notre logos, le logos des choses et le logos créateur, des formes architecturales archi connues chez nous, comme par exemple l'épousaille du ciel et de la terre, signifiée par la croisée du transept avec la coupole posée dessus. Voilà, comme cette église tout près de Cahors. Vous voyez, avec une coupole, un octogone porté sur des trompes qui viennent casser l'angle du carré. Le carré, ça symbolise la terre. Une autre forme de symbole, très connue également dans notre Bourgogne romane ou dans l'Auvergne romane, comme ici sur cette photo, c'est que l'église est comme une échelle céleste. Donc voilà une autre manière de vivre les épousailles du ciel et de la terre. C'est-à-dire nous pouvons monter vers le ciel. Et notre louange, en fait, est une montée vers le ciel. Mais il y a aussi l'idée immense dans la tradition chrétienne que c'est le ciel qui descend sur la terre. Tout comme tout à l'heure à Vézelay, c'est l'architecture qui recueille le ciel qui se donne, la lumière du monde qui vient visiter ce monde intérieur, comme il vient visiter nos âmes, comme il vient visiter nos églises. Et le sommet dans l'architecture de ce point de vue-là, c'est Sainte-Sophie de Constantinople, 6e siècle, 1 hectare au sol, 54 mètres de haut, une coupole de 33 mètres de portée. C'est incroyable. Et c'est quoi Sainte-Sophie de Constantinople du point de vue architectural? C'est une sphère qui vient épouser un cube. Donc le ciel qui vient épouser la terre. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Et la sphère est ouverte. Elle s'est coupée en deux et elle est ouverte des deux côtés de la demi-coupole. Et ça fait tout l'espace intérieur. Ça justifie l'espace intérieur. Aujourd'hui, avec les photos contemporaine, on y arrive très facilement, et quand dès que vous prenez un peu de hauteur, vous voyez le cube, la sphère. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est une manière que les hommes géniaux ont trouvé pour exprimer et pour faire vivre efficacement les accordailles du ciel et de la terre. Et puis, je finis avec la transfiguration de la matière. Alors ça aussi, c'est une très belle manière d'honorer le désir du monde d'être liturge, de chanter la louange de son créateur. Transfigurer la matière, c'est-à-dire nous allons la spiritualiser. La matière devient esprit. Un paysage comme celui-ci est déjà magnifique. Hein, on est à Königssee, en Autriche. Il est encore plus beau quand un édifice s'y est disposé. Vous voyez en bas, là, tout petit, et ça transfigure tout. Il y a alors comme un supplément, une orientation, ou mieux encore, un accord, un répond. Vous voyez, comme on dit en liturgie, un psaume responsorial. Eh bien là, c'est une église responsoriale, c'est-à-dire elle répond à la beauté, à l'énorme beauté du monde. Je crois qu'il y a là, en effet, une façon d'œuvrer au salut de la matière. C'est de poser au milieu des paysages ce que ceci tente de dire sans le pouvoir. Et donc l'Église construite exprime ce qui manquait à la beauté, c'est-à-dire se tourner vers Dieu. Bon voilà, c'est les exaucements et exaucements dont je parlais tout à l'heure. Une seconde manière de faire cette louange du cosmos. Alors ça, c'est presque une inversion sensible par rapport à ce que je viens de vous montrer. C'est les Böhmes, la dynastie des architectes Böhmes. Ils ont vécu la guerre, ils ont vécu les procès du nazisme, Eichmann et compagnie. Et ils ne désespèrent pas. Et eux, ils disent, leur Dominicus Böhm, c'est Gottfried Böhm, les semences du Verbe sont enfouies en terre et soulève le chaos, même le chaos que nous avons créé, c'est-à-dire le chaos de la guerre, le chaos du désordre, le chaos des haines. Et donc, c'est ça qu'ils expriment par cette architecture, et où on a presque l'impression que, au lieu que ce soit le ciel qui s'ouvre au-dessus de nos têtes, c'est un chaos. Eh bien, pour Gottfried Böhm, l'espérance chrétienne, en effet, est capable de soulever le chaos de notre humaine misère, hein, et de venir l'habiter d'espérance. Donc ouais, c'est vraiment Bon, ils sont très doués, hein, donc ils n'ont pas fait que ça comme type d'architecture. Vous allez voir dans un instant. Et puis, vous avez évidemment une autre forme d'architecture qui, celle-ci, va, je parle de la transfiguration de la matière, c'est-à-dire on est comme dans une grotte, comme dans un monde souterrain, et qui s'est comme légèrement soulevé pour pouvoir recevoir cette immense foule. C'est le sanctuaire souterrain de Lourdes. Quand vous n'êtes pas 10 000, c'est pas beau, hein. Quand vous n'êtes pas 10 000, ça ressemble à une immense patinoire. Mais quand vous êtes 10 000, là, vous comprenez en effet. Quand vous êtes 10 000, vous avez l'impression que c'est bas de plafond, et que on est comme la Terre. La Terre a comme ménagé un petit espace pour que nous puissions rentrer en son sein. Encore plus avec les cryptes romanes. Là, on est à Sainte. Ou alors là, waouh, on a l'impression de rentrer dans le cœur, et dans le cœur de la matière. On a l'impression de rentrer avec ces formes minérales partout, de rentrer dans un lieu avec d'une grande intimité. Alors, une autre manière de transfigurer la matière, de la spiritualiser, vient avec la période gothique. C'est littéralement, vous faites de la pierre une lumière. Voilà, ça n'est plus. Alors, ça paraît léger comme ça, mais en fait, c'est extrêmement lourd comme technique, comme calcul des décharges, mais ça permet de faire un flot de lumière. Et la matière en est entièrement illuminée et allégée. Pratiquement, la matière devient aérienne. Vous vous rendez compte, c'est quelque chose d'incroyable. C'est ça, pour ça, le concours des hauteurs des cathédrales gothiques. C'est ça la signification, hein. C'est la spiritualisation de la matière. Ne parlons pas, enfin si, justement, il faut en parler, de ce que Suger disait de la fonction du vitrail. La fonction du vitrail, bien sûr, il raconte une histoire, il raconte un passage biblique, bien sûr, il fait venir la lumière de l'extérieur, mais il transforme aussi la pierre en pierre précieuse, par ses reflets sur le sol. Ah, c'est magnifique, hein. C'est une sorte de transfiguration totale. Et de la liturgie, devient cosmique, là aussi, c'est-à-dire elle change, elle fait jubiler les forces habituellement lourdes du cosmos, qui deviennent un champ magique. Alors il n'y a pas que nous, hein, il n'y a pas que les Occidentaux. Voici par exemple un plafond musulman à Ispahan. C'est la même idée, hein. On est dans la mosquée du vendredi, et l'idée c'est quoi? C'est de faire en sorte que le ciel ne soit pas vécu architecturalement comme lourd, comme pesant. Et donc, littéralement, on le dématérialise, on le mathématise. Vous voyez, ce sont des motifs géométriques qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et les mathématiques, pour les Arabes, c'est une idée pure. C'est l'esprit. Ouais, c'est l'esprit, ça n'a rien de matériel. Et donc, en mathématisant la voûte, ben, ils vont la spiritualiser. Ici, hein, en Angleterre, vous avez le gothique tardif, qui, alors là aussi, c'est de la pierre. C'est de la pierre, on dirait une broderie, quoi. Eh bien, figurez-vous qu'ils sont capables de ça en Angleterre au XVe siècle. On est capable de ça en France au XXe. C'est Paul Tournon, cette fois-ci, qui est à Elisabethville. C'est tout près, c'est sur la Seine, c'est tout près des usines Flins. Il y avait là de Renault, hein, les usines, il y avait une cité ouvrière qui a été construite, et on demande à Paul Tournon de faire une église de quartier. Et donc, il construit ça en béton. Alors, évidemment, il a vraiment très, très bien étudié les éléments porteurs pour qu'on les voie quasiment plus. Et vous voyez, même le plafond devient une espèce de dentelle. Son idée, c'est véritablement ça, hein, de spiritualiser, de rendre complètement lumineux toute la matière humaine. Et puis, alors, je reviens sur Böhme, c'est celui qu'on voyait tout à l'heure à soulever un monde de gravats. Eh bien, le voilà, il fait lui aussi un mur entièrement de vitrail. Un mur qui devient lumineux à Maria Koenig à Köln. Et voilà, c'est avec cette image que s'arrête et ce cours et l'ensemble du parcours du CIF Oh là là, quelle triste chose quand même. Que ça s'arrête, quelle triste chose. Mais quelle belle chose de finir comme ça. Voilà, alors on peut remettre les caméras et les micros, si vous voulez. Remets la mienne, voilà. Et si vous avez une ou deux remarques, j'ai à peu près rattrapé mon retard, hein, je suis désolé. Mais j'ai pas trop couru, ça va, j'ai le sentiment d'avoir quand même fait ce qu'il fallait.
Merci de nous avoir fait découvrir, en tout cas, je connaissais pas du tout cette architecture, en tout cas cette idée de l'église ou de la chrétienté qui repousse le chaos.
Ah ouais.
C'est la première fois que je l'entends et que je le vois et je trouve ça extraordinaire.
Ah oui, une très belle théorie en effet. Ouais, c'est bien. Hein. Voilà. Bon, alors j'ai été obligé d'aller un peu vite, hein, mais j'espère que je ne vous ai pas assommé quand même.
Non. Non, mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'on les regarde plusieurs fois, en fait, les cours, les
oui. Incarnés. Oui, mais c'est pour ça que c'est sur le site. Donc, revoir les photos aussi, c'est toujours intéressant. Oh. Eh bien voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Hein, il faut continuer à travailler, à lire, à vous former, à être curieux de tout. Voilà, il n'y a pas que le CIF. Mais aussi, vous savez qu'on fait une proposition pour continuer avec le module histoire, le module biblique, que vous pouvez suivre une fois que vous avez fait le cycle de... Module histoire, c'est avec Philippe Saudret. Et module biblique, vous connaissez, c'est avec Roselyne Dupont-Roc.
Dupont-Roc, ouais. Ça y est, moi je suis inscrite.
Ah, oh, bien.
Non, mais parce qu'il y a des choses comme ça, il vaut mieux les faire tout de suite parce qu'à la rentrée, c'est le chaos. Allez, hop.
Ah ben voilà, exactement. C'est exactement. Il faut lutter contre le chaos et contre les forces chaotiques. Voilà, très bien. C'est vertueux. Ah, c'est bien, c'est bien. Bon, allez, bonne nuit. À une prochaine fois, peut-être.
Merci.
Allez, ciao, ciao.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Bonne nuit.